Voici pour toi, Camille, mais aussi pour tes frères et sœurs, et bien sûr ta maman, un conte de Pierre Gripari, G-R-I-P-A-R-I, extrait du livre « Le gentil petit diable et autres contes de la rue Broca, B-R-O-C-A, collection Folio Junior, 1983, page 96. » Son titre est « Je ne sais qui, je ne sais quoi ». Il était une fois un riche marchand qui avait trois fils. Les deux premiers étaient intelligents et le troisième idiot, mais tellement idiot qu'on l'appelait manque de chance. Chaque fois qu'il portait quelque chose, il le laissait tomber. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il disait une sottise. Chaque fois qu'il prenait un outil, il faisait un malheur. Et les gens du pays, qui le connaissaient bien, préféraient le nourrir gratis plutôt que de le laisser toucher à quoi que ce soit. Un beau jour, le marchand réunit ses trois fils et leur dit « Maintenant que vous êtes grands, vous devez apprendre le métier. Je vais donner à chacun de vous 100 pièces d'or pour acheter des marchandises et un bateau pour aller les vendre en pays étranger. » « À manque de chance aussi ?» demandèrent les deux aînés. « À manque de chance aussi. Mais il est complètement idiot. » Idiot ou non, c'est tout de même mon fils. Et il sera traité exactement comme vous. » Le marchand donna donc 100 pièces d'or à chacun de ses fils et les voilà partis tous les trois pour la ville afin d'acheter des marchandises. Le fils aîné, qui s'est levé tôt, arrive le premier. Il achète des fourrures et en emplit son bateau. Le second fils arrive ensuite et charge son bateau d'une cargaison de miel. Quant à manque de chance, il se lève sur le coup de midi, déjeune sans se presser et se met en route vers 2 heures. Mais avant d'arriver à la ville, il rencontre en chemin une bande d'enfants qui ont attrapé un chat et qui essayent de le fourrer dans un sac. « Pourquoi faites-vous ça ?» demande l'idiot. « Pour le noyer !» répondent les enfants. « Et pourquoi le noyer ?»« Et parce que ça nous amuse !» Manque de chance à pitié du chat. Il dit aux enfants « Ne faites pas ça, donnez-le-moi. »« Non, non, disent les enfants, on préfère le noyer, c'est plus drôle. »« Alors vendez-le-moi. »« Combien nous en donnes-tu ?»«
Je ne sais pas. »«
Combien en voulez-vous ?»« Ben, ça dépend, combien as-tu sur toi ?»« J'ai 100 pièces d'or. »« Eh bien, donne-les-nous, et le chat est à toi. » L'idiot, sans discuter, donne les 100 pièces d'or et emporte le chat. Quand les trois frères sont rentrés chez eux, le père leur demande « Qu'avez-vous acheté ?»«
Moi, dit l'aîné, j'ai acheté des fourrures. »«
Moi, dit le deuxième, j'ai acheté du miel. » »«
Et moi, dit manque de chance, j'ai acheté ce chat que des enfants voulaient noyer. »
En entendant cela, les deux aînés se mettent à rire.
« Ah, 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 manque de chance, c'est bien toi, un chat ?»
Pour 100 pièces d'or. N'importe, dit le père, ce qui est fait, il partira sur mer et il vendra son chat, comme vous vos marchandises. Il bénit ses trois fils et le lendemain matin, chacun s'embarque sur son bateau. Ils naviguent et au bout de 3 mois, ils arrivent dans une île inconnue. Or, dans cette île, il n'y avait pas de chat. Les souris pullulaient comme l'herbe dans les champs, rongeant tout, perçant tout et dévorant tout. C'était une calamité publique. Le frère aîné débarque un soir et porte ses fourrures au marché. Mais le lendemain matin, quand il veut les vendre, elles sont pleines de trous, car les souris les ont rongées pendant la nuit. Le second frère débarque ensuite et porte lui aussi son miel au marché. Mais le lendemain matin, les tonneaux sont percés, le miel s'est répandu à terre et il est plein de crottes de souris. Le troisième jour, l'idiot débarque avec son chat en laisse. Mais à peine arrivé au marché, voilà que le chat se met à tuer des souris. Il en tue 10, 20, 100, c'est un vrai massacre. Les marchands du pays viennent dire à l'idiot « Combien vends-tu cette bête merveilleuse ?»«
Je ne sais pas, dit manque de chance, combien m'en donnez-vous ?»
« Oh, nous t'en donnons 3 tonneaux d'or !» Eh bien, c'est entendu. l'idiot donne le chat, reçoit 3 tonneaux d'or, puis comme il voit ses frères qui font une drôle de tête, il leur dit « Allons, ne soyez pas tristes, prenez chacun 1 tonneau d'or et laissez-moi ici avec le 3e. » « Merci, disent les frères, mais pourquoi te laisser ici? Tu ne reviens donc pas chez notre père ?»«
Non, répond Manque de chance, je me trouve très bien dans ce pays. C'est le seul où l'on ne m'est pas encore traité d'idiot. » »«
Alors adieu, disent les frères, adieu. »
Et les deux frères s'en vont, chacun dans son bateau, avec son tonneau d'or.
Manque de chance reste avec le 3e tonneau.
« Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire » songe-t-il.
« Je n'ai pas besoin de tout cet or-là, moi. »
Il distribue son or aux pauvres, puis il vend son bateau pour acheter de l'encens. L'encens, E-N-C-E-N-S, c'est une résine qui sent très bon quand on la fait brûler. De cet encens, il fait un gros tas sur la plage. Une fois la nuit venue, il y met le feu et pendant que l'encens brûle, il se met à danser tout autour en criant « C'est pour toi, gentil Dieu, c'est pour toi, gentil Dieu !» Alors, un ange de Dieu descend du ciel dans la colonne de fumée et lui dit « Grand merci, manque de chance, pour te récompenser, la première chose que tu demanderas, je suis chargé de te l'accorder. Qu'est-ce que tu veux ?» Voilà notre idiot bien embarrassé.
Ce que je veux ? Mais qu'est-ce que je veux ? Je n'en sais rien, moi. J'ai jamais pensé à ça.
Écoute, dit l'ange avec bonté, prends ton temps, promène-toi et demande conseil aux 3 premières personnes que tu rencontreras.
Grand merci, monsieur l'ange, répond l'idiot.
Et le voilà parti. Au bout de quelques pas, il rencontre un marin.
Dis-moi, marin, pourrais-tu me donner un conseil? Un ange de Dieu m'a demandé ce que je voulais. Qu'est-ce que je dois lui répondre?
Le marin se met à rire. Est-ce que je sais? Je ne suis pas dans ta peau.
Mais manque de chance, voyant que le marin se moque de lui, se fâche tout rouge.
Ah, c'est comme ça, dit-il, et pan!
D'un coup de poing, il lui fracasse le crâne. Un peu plus loin, il croise un paysan.
Dis-moi donc, paysan, un ange de Dieu m'a demandé ce que je voulais. Qu'est-ce que je dois lui répondre à ton avis?
Le paysan se met à rire. Demande-lui ce que tu veux, ça te regarde, non?
Mais à ces mots, l'idiot se fasse tout rouge.
Ah, c'est comme ça, et pan! D'un coup de poing, il tue le paysan.
Un peu plus loin, il rencontre une vieille femme.
« Dis-moi, grand-mère, je suis embarrassée. Un ange de Dieu m'a demandé ce que je voulais. »
La vieille le regarde. Elle comprend tout de suite qu'il n'est pas très malin et elle répond sérieusement.
« Il y a de quoi être embarrassée, en effet.
Oh, tu peux bien sûr demander la richesse. Mais si tu deviens trop riche, tu risques fort d'oublier Dieu. Moi, à ta place, je demanderais une femme de bon conseil.
Merci, bonne vieille. »
Et notre idiot s'en retourne à la plage. Le tas d'encens est encore rouge et l'ange de Dieu est toujours là, au-dessus, dans la fumée.
« Alors, demande l'ange, que désires-tu, manque de chance ?»«
Je veux une femme de bon conseil. »
« Parfait, dit l'ange, tu as très bien choisi. Va te promener demain matin dans les bois et tu la trouveras. »
Et l'ange remonte au ciel de Dieu. Le lendemain matin, l'idiot s'en va dans la forêt prochaine. Il y marche longtemps, longtemps, sans rencontrer personne. Tout à coup, il entend derrière un buisson une voix suppliante.
« Ne me tue pas, ne me tue pas !»
Il se penche, il regarde. Une tourterelle blessée, les plumes tachées de sang, saute sur une patte en gémissant.
« Ne me tue pas, ne me tue pas !»
« Mais je n'ai nullement l'intention de te tuer, » dit l'idiot.
« Alors prends-moi dans tes bras, » dit la tourterelle.
« Je n'ai pas le temps, » répond l'idiot. « J'ai rendez-vous, vois-tu ?» Mais la tourterelle répète sur un ton plaintif.
« Si, prends-moi dans tes bras, berce-moi dans tes bras. »
Manque de chance a pitié. Il prend la tourterelle, il la berce doucement, il embrasse sa petite tête. La tourterelle lui dit « C'est bien, encore, et quand je m'endormirai, donne un petit coup avec ton doigt sur mon aile droite. » Manque de chance continue de la caresser. Au bout d'une minute, la tourterelle ferme les yeux et commence à piquer du bec en avant. Alors l'idiot donne un petit coup avec son doigt sur l'aile droite et... Ce n'est plus un oiseau qu'il tient dans ses bras, c'est une merveilleuse jeune fille qui se met à chanter.
Tu as su m'attraper, tu as su me garder, je serai ton épouse à jamais.
Manque de chance et ravi, mais en même temps un peu honteux.
Hélas, dit-il, je vois que tu es belle et sage, mais je n'ai pas de métier pour te faire vivre, et partout on m'appelle manque de chance.
La jeune fille rit, l'embrasse et lui répond. À partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus manque de chance, on t'appellera heureux vénard.
Tu es gentil, répond l'idiot, mais je dois te prévenir, je ne sais même pas où nous coucherons ce soir.
Peu importe, allons droit devant nous. Ils vont droit devant eux, là où leurs yeux regardent. Quand la nuit tombe, ils s'arrêtent sous un arbre et la femme dit à son mari, « Fais ta prière et couche-toi. Demain, il fera jour. » L'idiot fait sa prière, il se couche et s'endort. Quand il s'est endormi, la jeune femme tire de son corsage un livre de magie. Elle l'ouvre et lit à haute voix. Serviteur de ma mère, venez à mon secours. Aussitôt, deux géants apparaissent.
Fille de ta mère, que nous veux-tu ?
Je veux que vous me construisiez un magnifique palais avec tout ce qu'il faut, les domestiques, les meubles, l'office et la cave.
Fille de ta mère, compte sur nous.
Et le lendemain, quand l'idiot se réveille, il est dans un grand lit dans la plus belle chambre d'un palais magnifique. Une vingtaine de domestiques viennent lui servir son petit déjeuner. En se retournant, il s'aperçoit que sa femme est couchée près de lui. Il lui demande « Mais qu'est-ce qui nous arrive ?»«
Ça n'est rien, » répond-elle. Comme je ne dormais pas cette nuit, j'ai fait ça pour m'amuser.
L'idiot la regarde avec admiration. C'est vrai que tu es sage, dit-il. Elle se met à rire.
Tu n'as encore rien vu. Pour le moment, dépêche-toi de déjeuner. Quand tu auras fini, tu iras voir le roi pour t'excuser d'avoir bâti dans son domaine.
L'idiot déjeune, s'habille, puis on le conduit dans un carrosse tout doré jusqu'à la capitale et il va voir le roi.
« Que me veux-tu ? » demande le roi.
« Majesté, je vous prie de bien vouloir m'excuser. »«
T'excuser ? Et de quoi t'excuser ? » ?»«
D'avoir bâti un palais sur vos terres. »«
fait le roi. La faute n'est pas bien grave. Mais puisque tu es là, montre-le-moi, ce palais. Je suis curieux de le voir tout de même. »«
Volontiers, Majesté. »
L'idiot emmène le roi dans son carrosse jusque chez lui. Lorsque le roi voit le palais de l'extérieur, il en bâille d'admiration. Lorsqu'il voit l'intérieur, il pousse des cris d'émerveillement. Mais quand il voit la femme de l'idiot, il devient triste et ne peut plus rien dire, car il est amoureux. En le voyant rentrer, sa mère lui demande
« Pourquoi es-tu mélancolique, mon enfant ?»
Ah, dit le roi, c'est que j'ai de mauvaises pensées.
Lesquelles ?
J'ai vu la femme de l'idiot, je suis amoureux d'elle et je trouve injuste que cette femme ne m'appartienne pas.
En ce cas, dit la vieille reine, il faut la lui voler.
Oui, mais comment ? Ils sont mariés ensemble.
Écoute, dit la reine mère, j'ai une idée. « Dis à l'idiot de faire quelque chose de très, très, très difficile. Et s'il ne peut pas le faire, eh bien, coupe-lui la tête. »«
Ça, dit le roi, c'est une bonne idée. »
Et il se couche tout réjoui. Le lendemain, il fait venir l'idiot et lui dit.
« Puisque tu as construit ce beau palais, écoute ce que je t'ordonne. Tu vas me faire une route qui joindra ton palais au mien. Cette route sera pavée d'or. Elle sera bordée d'arbres dont chaque feuille sera une émeraude,
une pierre précieuse verte, et chaque fruit, un rubis, une pierre précieuse rouge. Dans chacun de ces arbres nichera un couple d'oiseaux de feu qui chanteront toutes les chansons du paradis. Et au pied de chaque arbre, il y aura un couple de chats marins qui miauleront pour les accompagner. Que tout cela soit prêt pour demain matin, sinon je te fais couper la tête. L'idiot rentre chez lui très abattu. Sa femme lui demande « Eh bien, quoi de neuf ?»«
Oh, ne m'en parle pas, » répond l'idiot.
Et il rapporte à sa femme les paroles du roi. La femme se met à rire.
« Rien que ça, mais c'est une plaisanterie. Allons, fais ta prière et couche-toi. Demain, il fera jour. »
L'idiot va se coucher. Dès qu'il est endormi, la femme sort du palais, tire de son corsage le livre de magie, l'ouvre et se met à lire. « Serviteur de ma mère, venez à mon secours. » Le lendemain matin, le roi met le nez à la fenêtre et à sa grande surprise, il aperçoit la route pavée d'or qui joint les deux palais, avec les arbres d'émeraude et de rubis qui tintent, les oiseaux de feu qui chantent et les chats marins qui miaulent en mesure. Il appelle sa mère.
« Regarde, mère, l'idiot est plus malin que tu ne croyais. La route est pavée d'or et il l'a faite en une nuit. »«
Hum, » dit la mère.
« Hum, » dit la reine mère avec un méchant sourire.
« Ça n'est pas lui qui est malin, c'est sa femme. Mais ne te désole pas, j'ai une autre idée. Ordonne-lui d'aller dans l'autre monde pour demander à ton père qui est mort dans quel endroit il a caché son or. » Il lui sera impossible d'y aller et tu lui couperas la tête.
Excellente idée, dit le roi. Et le jour même, il ordonne à l'idiot. Puisque tu es si malin, va donc dans l'autre monde et demande à mon père dans quel endroit il a caché son or. Et si tu ne le trouves pas, c'est inutile de revenir. L'idiot rentre chez lui et rapporte à sa femme les paroles du roi. La femme se met à rire. À la bonne heure, dit-elle. Cette fois, c'est du travail. Allons, viens avec moi. Elle sort de son corsage une boule magique et la lance devant elle. La boule se met à rouler, ils la suivent. La boule roule jusqu'à la mer s'écarte devant elle et elle continue à rouler. L'idiot et sa jeune femme la suivent toujours. Ils marchent à présent entre deux murailles d'eau. Ils vont, et quand la boule s'arrête, ils sont dans l'autre monde. Une fois là, il voit un très vieil homme, couronne en tête, qui porte sur son dos un immense tas de bois et derrière lui deux diables qui le fouettent pour le faire avancer. C'est le père du roi, dit la femme. Alors l'idiot s'avance et il crie aux deux diables. Arrêtez !
Qu'est-ce que tu veux ?
Demandent les diables. J'ai besoin de parler à cet homme.
Et qui donc portera notre bois pendant ce temps-là ?
Une seconde, dit la femme. Elle tire le livre de son corsage et elle appelle. Serviteur de ma mère, venez à mon secours. Les deux géants apparaissent aussitôt.
Fille de ta mère, que nous veux-tu ?
Portez le bois de ces deux diables, répond la femme, pendant que nous parlons avec cet homme. Aussitôt, les deux géants se chargent du tas de bois. Et le vieil homme tombe tant il est fatigué. L'idiot s'approche de lui. C'est ton fils qui m'envoie. Il veut savoir dans quel endroit tu as caché ton or.
Mon fils, dit le vieux roi, il ferait mieux de gouverner dans la justice et de laisser mon or tranquille. Dis-lui que s'il n'est pas meilleur que moi, il finira comme moi.
C'est entendu, répond l'idiot, je lui dirai. Mais ce n'est pas cela qu'il me demande. Et l'or ? Le vieux roi pousse un profond soupir, puis il détache une petite clé qui pendait à son cou.
« Allons, dit-il, je vois bien qu'à vous autres vivants, il ne sert à rien de faire de la morale. Eh bien, dis à mon fils qu'il descende dans la cave du palais. Derrière les rangées de bouteilles, il trouvera la porte de mon trésor. Elle ouvre avec cette clé.
Et il donne la clé à l'idiot. Celui-ci remercie et prend avec sa femme le chemin du retour, pendant que les diables, revenus, ramènent le vieux roi en le chassant devant eux à coups de fouet. Le lendemain, l'idiot se présente au palais. Le roi lui demande
« Tu n'es donc pas encore parti ?»«
Je suis parti, répond l'idiot, et je suis revenu. J'ai vu le père de votre majesté. »
« Ah, tu l'as vu ? Et où donc ?»«
Dans l'autre monde, votre majesté. »«
Et qu'est-ce qu'il y fait ?»«
Il y porte du bois pour les diables, dit l'idiot, et les diables le fouettent pour le faire avancer. »
Le roi fait la grimace. Ces choses-là ne sont pas agréables à entendre, surtout, comme c'est le cas, en présence de toute la cour. Il baisse la voix et répond à l'idiot.
« Tu te moques de moi ?
Oh non, votre majesté !»
C'est bon. Et qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a dit que vous feriez mieux de gouverner dans la justice et de laisser son or tranquille si vous ne voulez pas finir comme lui.
Tu mens !
Non, je ne mens pas, votre majesté.
Alors, et la cachette ? Il n'a rien dit au sujet de la cachette.
Si, votre majesté, descendez à la cave et derrière les rangées de bouteilles, vous trouverez une petite porte qui s'ouvre avec cette clé.
Le roi arrache la clé des mains de l'idiot et sort en lui disant
« J'y vais voir tout de suite. » Et si ce n'est pas vrai, je te fais couper la tête.
Il descend à la cave, il écarte les bouteilles et en effet, il trouve une petite porte. Il l'ouvre, c'est la porte du trésor. Le soir même, il dit à sa mère,
l'idiot est encore plus malin que nous ne pensions.
Il m'a rapporté la clé du trésor.
Allons donc, dit la reine mère. C'est sa femme qui est maligne, ça n'est pas lui. Mais sois tranquille, j'ai encore une idée. Ordonne-lui d'aller je ne sais où, trouver je ne sais qui, pour lui demander je ne sais quoi. Cette fois, il ne reviendra pas et tu pourras lui prendre sa femme.
Quelle merveilleuse idée, s'écrie le roi, ravi. Et le lendemain, il ordonne à l'idiot. Va-t'en je ne sais où, trouver je ne sais qui, et demande-lui je ne sais quoi. Si tu as le malheur de revenir sans me le rapporter, je te fais couper la tête. Et au moment où l'idiot va sortir, il ajoute « Ah, et puis j'oubliais, tu laisseras ta femme ici. Je lui interdis de t'accompagner. » Pour la troisième fois, l'idiot rentre chez lui et répète à sa femme les paroles du roi. Cette fois, la femme reste songeuse. Cela, dit-elle, c'est vraiment difficile et il faut que tu ailles seule. Elle réfléchit longuement, puis elle donne à son mari une serviette brodée en lui disant « Écoute-moi bien, tu vas sortir d'ici et aller droit devant toi jusqu'au bout de la terre. Partout où tu t'arrêteras, demande à prendre un bain. Et ne t'essuie jamais qu'avec cette serviette que j'ai brodée moi-même. » Puis elle tire de son corsage le livre de magie et lit à haute voix. « Serviteur de ma mère, venez à mon secours. »
« Fille de ta mère, que nous veux-tu ? » demandent les deux géants.
« Dès que mon mari sera parti, dit-elle, transformez ce palais en montagne et moi-même en rocher. De cette façon, le roi ne pourra rien sur moi. »
L'idiot embrasse sa femme, puis il prend la serviette et s'éloigne. Au bout de quelques pas, il se retourne et que voit-il ? À la place du palais, une haute montagne et à la place de sa femme, un rocher. Il va droit devant lui, là où ses yeux regardent, pendant des jours, des semaines, des mois. Il traverse une mer, puis une terre, puis encore une mer, puis d'autres terres et d'autres mers, tant et si bien qu'un jour, il est au bout du monde. En face de lui, il n'y a plus qu'un fleuve de feu, et tout près de ce fleuve, une petite maison. Il entre dans la petite maison, et au milieu de la salle, assise dans un grand fauteuil, il trouve une vieille sorcière qui se met à renifler.
« Ça sent le chrétien, ici.
Excuse-moi, grand-mère, demande l'idiot, mais je cherche un pays qui s'appelle je ne sais où.
Tu n'as plus rien à chercher désormais, dit la vieille, car je vais te manger.
Oh, ma foi, comme tu veux, dit l'idiot, mais laisse-moi prendre un bain.
Certainement, dit la vieille, ça m'évitera d'avoir à te laver moi-même.
Elle lui fait chauffer un bain. L'idiot se lave, et quand il a fini, elle lui tend une serviette.
Tiens, essuie-toi.
Non, non, dit-il, j'ai ma serviette à moi. Et il tire sa serviette brodée. En la voyant, la vieille change de figure. Elle lui demande,
mais où as-tu pris cette serviette?
Je ne l'ai pas prise, c'est ma femme qui l'a brodée.
Ta femme? Mais en ce cas, tu as épousé ma fille. Il n'y a qu'elle et moi pour broder de cette manière. Dans mes bras, mon beau-fils.
Et la vieille saute au cou de l'idiot et l'embrasse. Ensuite, elle l'interroge.
Mais qu'est-ce que tu viens faire ici?
L'idiot raconte son histoire, ses frères, le chat, l'ange, la tourterelle et les ordres du roi. Dis-moi, mère, tu ne connais pas un endroit qui s'appelle je ne sais où?
Non, dit la vieille, je ne connais pas. Mais attends donc, je vais me renseigner.
Elle sort de sa maison, se campe face à la forêt et crie de toutes ses forces.
Bête de la forêt, venez à moi!
Aussitôt, toutes les bêtes de la forêt viennent à elle. Vieille du bout du monde, que nous veux-tu? Demandent les bêtes.
Connaissez-vous l'endroit qui s'appelle je ne sais où?
Non, non, nous ne le connaissons pas.
C'est bon, allez-vous-en.
Les bêtes retournent dans la forêt. Alors la vieille lève les bras en l'air et crie de toutes ses forces.
Oiseau du ciel, venez à moi!
À ce moment, le ciel devient tout noir et les oiseaux du monde entier viennent se percher près d'elle. Vieille du bout du monde, que nous veux-tu? Demandent les oiseaux.
Connaissez-vous l'endroit qui s'appelle je ne sais où?
Non, non, nous ne le connaissons pas.
C'est bien, au revoir.
Et les oiseaux s'envolent. Au même instant, l'idiot se met à pleurer.
Personne ne connaît cet endroit. Je ne reverrai plus ni mon pays, ni ma femme.
Allons, grosse bête, ne pleure pas, dit la vieille. Nous n'avons pas encore demandé au poisson.
Elle le conduit jusqu'au bord de la mer. Une fois là, elle se met à crier.
Poisson des mers et poisson des eaux douces, venez à moi.
Et là-dessus, voilà tous les poissons du monde qui se mettent à grouiller sur la plage. La vieille leur demande.
Connaissez-vous l'endroit qui s'appelle je ne sais où?
Non, répondent les poissons.
C'est bon, adieu.
La vieille ramène l'idiot chez elle. L'idiot, cette fois, est tellement triste qu'il en oublie même de pleurer. Et la vieille, elle non plus, ne dit pas un mot. Quand ils arrivent près de la maison, ils entendent derrière eux une voix bizarre.
Quoi, quoi, quoi?
Ils se retournent. C'est une grenouille qui les poursuit en bondissant.
Quoi, quoi, quoi?
La vieille lui demande.
Qu'est-ce que tu veux?
La grenouille répond.
Excuse-moi si je suis en retard. Je viens seulement d'apprendre que tu as appelé toutes les bêtes de la forêt. « Et où donc étais-tu ?» demande la vieille. « J'étais, dit la grenouille, dans un endroit qui s'appelle je ne sais où. »« Ah, oh, ça tombe bien, dit la vieille. Veux-tu y emmener mon gendre que voici ?»« À ton service, qui monte sur mon dos ?»
Et en disant ces mots, la grenouille s'enfle, s'enfle, s'enfle. Elle est bientôt devenue aussi grande qu'un homme. L'idiot monte à cheval sur elle. Il a tout juste le temps de crier à la vieille. « Merci, petite mère !» Et hop, la grenouille saute par-dessus le fleuve de feu. Une fois de l'autre côté, elle dit à son cavalier.
« Maintenant, tu peux redescendre. Tu es je ne sais où. Pour le retour, ne t'en fais pas. Quand tu auras trouvé ce que tu cherches, tu n'auras plus besoin de moi. »
Et hop, 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 elle saute et disparaît. Voilà l'idiot tout seul au milieu des rochers déserts. Il marche quelque temps, puis il trouve une grande maison. Il y entre, il la fouille, la parcourt en tous sens. Personne. Comme il va pour sortir, il entend un bruit de pas dans l'entrée. Vite, il se cache dans une armoire de la grande salle et regarde par une fente de la porte. Il voit entrer un majestueux vieillard qui s'assoit sur une chaise et appelle.
« Je ne sais qui !»
Une voix lui répond.
« Oui, seigneur !»«
J'ai faim, dresse la table !»
Une table surgit, couverte de bonnes choses à manger et à boire. Le vieillard mange, il boit, puis il appelle encore.
Je ne sais qui.
Oui, seigneur.
J'ai fini, débarrasse la table.
Et aussitôt la table disparaît. Alors le majestueux vieillard se relève et s'en va. Une fois qu'il est parti, notre idiot sort de sa cachette, s'assoit sur une chaise et appelle à son tour.
Je ne sais qui, es-tu là? Oui, j'y suis. J'ai faim, dresse la table.
Et la table revient couverte de bonnes choses. L'idiot va pour manger, mais il se ravise.
Je ne sais qui, tu es toujours là?
J'y suis toujours.
Alors assieds-toi et mange avec moi.
Je te remercie, dit la voix tout émue. Cela fait des millions d'années que je sers ce vieillard, et pas une seule fois il ne m'a invité à sa table. Et toi, tu y as pensé tout de suite. Eh bien, en récompense, je ne te quitterai plus.
Là-dessus, ils se mettent à table. Pendant que l'idiot mange, il voit en face de lui les plats qui disparaissent, les bouteilles qui se versent dans les verres et les verres qui se vident. Quand il est rassasié, il demande à haute voix.
Je ne sais qui, tu as encore faim?
Non, maître, j'ai fini.
Alors débarrasse la table.
La table disparaît.
Je ne sais qui, tu es encore là?
Je te l'ai dit, je ne te quitterai plus.
Peux-tu me donner je ne sais quoi?
Mais certainement, tout de suite, voici.
Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Rien n'a changé et cependant tout change. L'idiot respire mieux, son sang circule plus vite, il voit le monde autour de lui comme s'il ouvrait les yeux pour la première fois. Il trouve tout beau, tout bien, il comprend tout, il aime tout, il se sent fort, libre, joyeux et d'une gaieté folle. Il se met à rire tout seul.
C'est pourtant vrai, dit-il, tu m'as donné je ne sais quoi.
Désires-tu autre chose? Demande la voix.
Oui, dit l'idiot, ramène-moi chez moi.
Tout de suite, n'aie pas peur.
Au même moment, l'idiot se sent soulevé en l'air et voilà qu'il se met à voler, mais si vite, si vite, si vite, qu'il en perd son bonnet.
Hé, je ne sais qui, arrête, j'ai perdu mon bonnet.
Mais la voix lui répond,
ton bonnet, maître, est à 20 000 kilomètres d'ici. Il est perdu, inutile de le rechercher.
Une minute plus tard, l'idiot s'arrête devant une grande montagne et touche terre auprès d'un grand rocher. À peine a-t-il eu le temps de s'y reconnaître que la montagne se change en palais et que le rocher redevient sa femme. Elle lui saute au cou.
« Alors, tu as trouvé ce que tu cherchais ?»«
Une seconde, » répond l'idiot. Puis il appelle.
« Je ne sais qui. »«
Oui, maître. Peux-tu donner je ne sais quoi à ma femme ?»«
Tout de suite. Voilà. »
Et aussitôt, la femme se met à rire.
« Ah, c'est pourtant vrai ?» que tu m'as donné je ne sais quoi.
Maintenant, allons voir le roi. Ils prennent leur carrosse et ils enfilent la route pavée d'or. De chaque côté, les arbres d'émeraude et de rubis tintent. Les oiseaux chantent et les chats marins miaulent. Ils arrivent au palais royal et entrent dans la salle du trône.
« Encore toi ? » crie le roi. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»
L'idiot répond. « Je suis allé je ne sais où, j'ai trouvé je ne sais qui et il m'a donné je ne sais quoi. En veux-tu ta part ?»«
Ma foi, oui, dit le roi. Je suis curieux de savoir. »
Mais tout d'un coup, il s'interrompt puis il éclate de rire.
« Mais c'est pourtant vrai. Tu m'as donné je ne sais quoi. »
Puis il appelle. « Mère, mère !» La vieille reine arrive.
« Écoute, mère, l'idiot est revenu et il m'a donné je ne sais quoi. En veux-tu ta part ?»«
Ah, certainement non !» dit la reine-mère. « Qu'est-ce que c'est que cette bêtise ?»«
Allons, je ne sais qui, donne-le-lui quand même !» demande l'idiot.
Mais la voix répond.
« Je ne peux pas. Ce qu'elle n'accepte pas, il m'est impossible de le lui donner. »
« À présent, cher idiot, dit le roi, garde ta femme et reste auprès de moi. Comme je n'ai pas d'enfant, tu seras mon successeur. »
C'est ainsi qu'aujourd'hui, tout le monde est heureux dans le royaume. Tout le monde, sauf la reine-mère, qui reste morne, sèche et triste. Mais elle se console en se disant qu'elle est seule dans son bon sens et que tous les autres sont fous. Fin du
du conte de Pierre Gripari, je ne sais qui, je ne sais quoi. Comme je te l'ai dit, l'auteur de ce conte est Pierre Gripari. Il est né en 1925 et est mort dans les années 90. Il aurait pu, comme moi, être ton grand-père. Il avait juste mon âge et j'ai d'ailleurs été en classe avec lui au lycée Louis-le-Grand à Paris pendant l'année scolaire 1942-1943. Pierre Gripari a écrit des livres pour les grandes personnes, mais il est surtout célèbre pour les histoires qu'il racontait aux enfants de son quartier. À Nadia, Malika, Rachida et Bachir, chez Papa Saïd, dans l'épicerie buvette de la rue Broca. Oui, les contes de la rue Broca ont, comme la plupart des contes, d'abord été racontés avant d'être écrits. Tu te dis peut-être quelle imagination extraordinaire il avait pour inventer tout cela. Je te réponds, si certaines histoires ont été entièrement inventées par lui, pour d'autres, il s'est inspiré de contes de différents pays. Par exemple, la Grèce, où était né son père, ou le Danemark, patrie d'Andersen, auteur de La Petite Sirène, d'où sont sortis aussi bien Le Prince Blub, B-L-U-B, et La Sirène, de Gripari, que le dessin animé de Walt Disney. Je ne sais qui, je ne sais quoi est un conte qui vient de Russie. Je vais maintenant te raconter les trois contes russes qu'a utilisé Gripari pour l'écrire. Ils ont été rassemblés il y a 150 ans environ par Alexandre Afanassiev, A-F-A-N-A-2-S-I-E-V, qui est né en 1826, 99 ans avant Pierre Gripari. Je les ai pris aux pages 141 à 163 du deuxième volume des contes populaires russes d'Afanassiev, traduit par Lise Gruel à Père, G-R-U-E-L, trait d'union A-P-E-R-T, édition Maisonneuve et Larose, M-A-I-S-O-N-N-E-U-V-E, et Larose, L-A-R-O-S-E, 1990. Tu t'amuseras, je l'espère, à les comparer entre eux et avec le je ne sais qui, je ne sais quoi de l'ami Gripari, en notant les ressemblances et les différences. Mais j'ai assez bavardé. Voici le premier de ces contes d'Afanassiev. Il s'appelle « Va je ne sais où, rapporte je ne sais quoi ». En un certain royaume, vivait un roi qui n'était pas marié. Il avait des gardes qui devaient, selon l'usage, aller à la chasse et fournir de gibier la table royale. L'un d'eux s'appelait Fiodor, F-I-O-D-O-R. Il tirait juste, ne ratait jamais son but. Aussi le roi le distinguait-il et l'aimait-il entre tous ses compagnons. Un jour, il advint à Fiodor d'aller à la chasse de très bonne heure, au petit jour. Il s'enfonça dans la forêt sombre et profonde, avisa sur une branche une tourterelle, le voilà qui tire, touche l'aile, la tourterelle s'affaissa sur la terre humide. Le garde la ramassa et déjà il s'apprêtait à lui arracher la tête et à la glisser dans sa gibecière quand elle lui dit « Arrête, jeune garde, n'arrache pas ma tête hardie. Ne me fais pas quitter ce monde. Emporte-moi plutôt dans ta maison. Pose-moi sur la fenêtre et ouvre l'œil. Dès que je somnolerai, que je m'endormirai, frappe-moi de la main droite et tu connaîtras le bonheur. » Comment cela ? Songea le garde. À la voir, on croirait une oiselle, mais elle parle à voix humaine. Voilà qui ne m'était encore jamais arrivé. Il rapporta la tourterelle à la maison, la posa sur le rebord de la fenêtre et se tint en silence. Au bout d'un instant, elle blottit sa tête sous l'aile et se mit à somnoler. Le garde leva la main droite, la frappa doucement, la tourterelle tomba à terre et se transforma en une fille si belle qu'on ne peut ni l'imaginer ni la rêver, peut-être seulement la compter. La voilà qui dit au vaillant gaillard, garde du roi, « Puisque tu as su m'obtenir, sache me garder. Sois mon mari et je serai ta femme, donnée par la fortune. » Ainsi fut fait. Ils se marièrent, se mirent à vivre ensemble, à se donner du bon temps. Mais Fiodor n'en oubliait pas pour autant son service. Chaque matin, à la pointe du jour, il prenait son fusil, partait à la chasse, rapportait aux cuisines royales du gibier de toutes sortes. Ses allées et venues n'échappaient pas à sa femme. Elle voyait comme il était fatigué au retour de la chasse. Un jour, elle lui dit « Écoute, mon ami, tu me fais de la peine. Tous les jours que Dieu fait, tu les passes à courir bois et marais. Tu rentres à la maison fourbu, fatigué, éreinté, toujours mouillé. En sommes-nous plus riches? Pas le moins du monde. Mais ce n'est pas un métier, cela. Moi, je sais comment nous y prendre pour y faire du bénéfice. Trouve-moi 100 ou 200 roubles. Le rouble est la monnaie de Russie. Et à cette époque-là, un rouble était une grosse pièce d'argent. Trouve-moi 100 ou 200 roubles et l'affaire est dans le sac. Fiodor se précipita chez ses camarades, empruntant un rouble à l'un, un rouble à l'autre. Il eut bientôt fait de réunir les 200 roubles. « Bien, lui dit sa femme, maintenant va m'acheter de la soie de toutes les couleurs. » Le garde acheta pour 200 roubles de soie. Elle la prit et dit, « À présent, ne te fais plus de soucis. Fais ta prière et va te coucher. Tout sera prêt demain matin. » Il s'endormit. Alors, s'avançant sur le perron, sa femme ouvrit son livre magique. Aussitôt apparurent deux gaillards inconnus à qui demande que voudra. Prenez cette soie et fabriquez-moi en une heure de temps un tapis merveilleux, comme jamais il n'en fut, que tout le royaume y soit brodé, avec les villes, les villages, les lacs et les rivières. Ils se mirent à l'ouvrage et achevèrent le tapis en 10 minutes au lieu d'une heure. Ils le donnèrent à la femme du garde et en un clin d'œil, ils avaient disparu. Au matin, elle tendit le tapis à Fiodor. « Tiens, dit-elle. » Va le proposer au marchand, mais veille à ne pas fixer de prix toi-même à l'hôtel des ventes. Prends ce qu'on te donnera. Fiodor prit le tapis, le déplia, le mit sur son bras et s'avança entre les étalages. Un marchand le remarqua, il accourut et demanda, « Et là, brave homme, c'est à vendre ? » ?»« Oui. » « Combien ? » ?»« Tu es marchand, fixe le prix, répondit Fiodor. » Le marchand eut beau se creuser la tête, il ne put pas fixer de prix. Un deuxième marchand survint, un troisième, un quatrième, et bientôt une foule s'agglutina autour du tapis, cherchant en vain à en estimer le prix. À ce moment-là, passa un commandant du palais. Attiré par le bruit, il voulut savoir ce que c'était. Il descendit de voiture, s'approcha et dit « Bien le bonjour, messieurs les marchands, de quoi parlez-vous ? »
« Ce tapis, dirent les marchands, vous le voyez, eh bien, nous ne pouvons pas fixer son prix. »
Le commandant jeta un coup d'œil au tapis et resta tout étonné, médusé, époustouflé.
« Écoute, garde, dit-il, ne me cache rien. D'où te vient un tapis pareil ?»«
C'est ma femme qui l'a brodé. »
« Et combien en veux-tu ? » ?»«
Je ne sais pas, ma femme m'a ordonné de ne pas marchander et de prendre ce que l'on m'en donnerait. » »«
Tiens, voilà 10 000 roubles,
10 000 pièces d'argent. » Le garde prit l'argent et donna le tapis. Or, ce commandant était un familier du roi. Il mangeait et buvait à sa table. Il se rendit donc chez le roi et apporta son tapis. « Ne plairait-il pas à votre majesté de jeter un coup d'œil à la chose merveilleuse que j'ai achetée aujourd'hui ?» Levant les yeux, le roi vit tout son royaume comme dans la paume de la main. Il poussa un cri de surprise. « En voilà un tapis !» Ah, de ma vie, je n'ai rêvé chose pareille. Commandant, bon gré mal gré, il me faut ce tapis. Il lui donna 25 000 roubles, 25 000 pièces d'argent, et fit accrocher le tapis au mur.
Bon, pensa le commandant, je vais m'en faire faire un autre, encore plus beau.
Il partit au galop jusqu'à la demeure du garde, entra dans la chambre. À peine le commandant eut-il vu la femme du garde qu'il oublia ce qu'il était venu chercher. Devant lui se tenait une beauté telle qu'on aurait pu la regarder durant sa vie entière sans jamais en détourner les yeux. Il regarde la femme du garde et dans sa tête roulent de mauvaises pensées. Où a-t-on jamais vu, où a-t-on jamais entendu qu'un simple soldat possédât un trésor pareil ? J'ai beau être familier du roi, en passe de devenir général, jamais je n'ai vu beauté semblable. À grand-peine, le commandant reprit son sang-froid et il rentra chez lui bouleversé. Depuis ce jour, depuis cette heure, il ne rêve plus qu'à la belle femme du garde. Il en a perdu le boire et le manger. Le roi remarqua que le commandant n'était plus le même et le questionna.
« Que se passe-t-il ? Quel est ton chagrin ? Parle !»«
Hélas, votre majesté, dit le commandant, j'ai vu la femme du garde Fiodor. Elle est d'une beauté à nul autre pareille. Je n'ai qu'elle en tête. Je ne bois plus, je ne mange plus. Les breuvages magiques sont sur moi sans effet.
De telles paroles donnèrent au roi l'idée d'aller voir de ses propres yeux une beauté si vantée. Il entre dans la chambre et devant lui se tient une pure merveille. Vieux, jeune, tous ceux qui la voient en tombent sur leur éperdument amoureux. Le roi est pris au piège. « Et quoi ? » se dit-il. « Je ne suis pourtant pas marié. Mais la voilà la beauté qu'il me faut épouser. Qu'a-t-elle besoin d'être la femme d'un garde ? Il est écrit qu'elle sera reine. »
Fin de la première face de la première cassette. Va je ne sais où, rapporte je ne sais quoi d'Afanassiev. Page 143. Retourne la cassette, tu auras la suite de cette histoire.